trois petits coups, et puis s'en vont.
La quintessence de Vendredi Théâtre, le meilleur des derniers plateaux en direct.
Nous allons maintenant parler d'un nouveau plateau. Il s'agit du grand retour de Boris S. Et j'ai le plaisir d'accueillir Bernard Jacquelin, bonjour.
Bonjour.
Et Ernaud Vivien, bonjour.
Bonjour.
Alors nous en rejoignons sur le plateau, nous avons Grazia. Bonjour Grazia.
Bonjour.
Tito Livio, bonjour Tito.
Bonjour.
Et Robin.
Bonjour.
Et tout le monde a vu le spectacle. Alors le grand retour de Boris S., de quoi s'agit-il? C'est la visite d'un père à son fils.
C'est tout à fait ça, oui. La visite un peu impromptue, imprévue, et ce père et ce fils, ça fait un peu plus d'un an qu'ils ne se sont pas vus. Je crois qu'il y a beaucoup d'amour entre eux, mais il y a aussi beaucoup d'incompréhension et de problèmes à communiquer.
C'est le moins qu'on puisse dire.
Oui,
c'est le moins qu'on puisse dire. Alors vous jouez donc le personnage du fils,
oui,
qui lui est dans une situation pas facile puisqu'il vient de perdre son emploi, sa femme l'a quitté, et
voilà.
Donc c'est une situation particulièrement difficile pour lui.
Difficile, d'autant qu'elle est partie avec les enfants, donc c'est pas évident à vivre.
Et là-dessus, le père arrive sans prévenir.
Voilà, exactement, oui. Oui, oui.
Alors le père, c'est vous qui le jouez.
Oui.
Et il s'agit d'un comédien et qui va remonter sur scène et il va jouer le roi Lear.
Exact. Mais en fait, je pense qu'il s'agit aussi d'une visite un petit peu alibi. Bien sûr qu'il a besoin d'être dans un milieu un petit peu plus chaleureux pour préparer cette pièce, mais il y a un an qu'il n'a pas vu son fils, et je pense qu'il s'en fait une occasion sans se l'avouer. Alors, il met l'accent sur la pièce qu'il va préparer, mais il ne prévient même pas son fils, il débarque, et ensuite, il y aura toutes ces scènes à la fois d'amour, ou de confrontation, ou d'explication, ou d'incompréhension, et qui vont être développés comme ça au fil de la pièce.
Et en fait, il arrive à l'improviste, mais il vient pour rester deux mois.
Une semaine, deux semaines, deux mois tout au plus.
Les enfants, vous l'avez vu, qui veut intervenir? Tito?
Moi, ça m'a touché, on parlait d'ailleurs en antenne de ça, le fait, parce que ça parle quand même beaucoup du problème de la génération qui a connu la guerre et la Shoah et de leur descendance. Et donc ça m'a intéressé, cette histoire, parce que j'ai des amis juifs et que je constate un peu ça aussi, hein. Les gens qui ont mon âge ou un peu moins, qui sont les enfants de ces personnes, en général, c'est pas qu'ils rejettent le passé, c'est pas ça, mais c'est compliqué pour eux. Ils aimeraient bien s'en débarrasser un peu, quelque part, hein, de ce passé difficile qu'ils n'ont pas vécu et qui leur a un peu, peut-être un peu empoisonné aussi l'existence. Ouais. Il faut comprendre les gens et nous mettre à leur place. Avoir une enfance avec des parents qui ont tellement souffert, ça ne doit pas être drôle tous les jours. Et ça, c'est quelque chose qui m'a bien plu. C'est bien donné. C'est bien donné, ça. Et donc, du coup, il y a immédiatement une cassure entre le père qui ne peut pas comprendre que son fils... il a l'impression qu'il s'en fout, l'autre. Et son fils qui trouve que son père la ramène un peu trop de ça, là-dessus. Mais en même temps, ne lui raconte pas tout.
Oui, voilà. Il ne lui en a jamais parlé et le fils sent au quotidien le poids de la souffrance qu'a vécu son père, sans que son père ne l'ait jamais exprimé et ne lui en ait jamais parlé. Et je pense que l'incompréhension entre les deux vient essentiellement aussi de ça, c'est cette souffrance que le père ne peut pas dépasser et dont il ne peut pas parler jusqu'au moment où il arrive là chez son fils qui est plutôt dans un état de marasme personnel et professionnel, le père qui est en opposition de phase, donc qui lui s'est vu proposer le rôle de sa vie, et je pense que ce décalage entre les deux énergies et ce que vivent les deux à ce moment-là, et le déclencheur et c'est à ce moment-là que ça, qu'on peut, qu'il y a quelque chose qui peut se passer entre les deux, vraiment, parce qu'ils sont en opposition et du coup, et l'un et l'autre vont pouvoir se livrer un peu, se débarrasser un peu du poids qu'ils ont l'un et l'autre et en parler. C'est ça qui est intéressant, cet échange entre ce père et ce fils, cet échange qui a enfin lieu.
Il y a une petite scène très parlante dans la pièce. Les deux partenaires donc sont au restaurant, ils ont décidé d'aller s'expliquer un petit peu dans le calme, et à un moment donné, d'une façon un petit peu légère, le fils dit « Bon, j'aimerais qu'un jour tu m'expliques. » Quoi donc ? La guerre. Et le père, à ce moment-là, se renferme et dit « Il n'y a rien à dire, Henri. » Voilà, il n'arrive pas tout de suite à communiquer ça. Bon, le fils dit « Attends, quand on sera un petit peu plus à l'aise. » Et le père dit « Mais tu crois que je pourrais raconter ça à l'aise ?» Et il leur faudra ensuite un plus long temps de cheminement pour qu'il arrive à se livrer
un peu. difficilement.
C'est au moment où ils sont tous les deux en garde à vue, en fait, que le père se lâche un peu et qu'il y a une communication
là où ils vont se livrer.
Ouais,
hein,
ouais.
Donc c'est très drôle, c'est le père, il arrive à s'ouvrir dans un lieu fermé.
C'est vrai
que bon, dans la situation, le père tombe très mal. Hein. Ce père, il est un peu à l'ouest quand même. Enfin, il est
oui.
un peu paumé, quoi. Hein.
Mais c'est ce que dit le fils à un moment. Il ne vit que pour lui, dans sa bulle. Enfin, en tous les cas, c'est l'impression qu'a le fils et c'est l'impression que dégage ce père. Je pense qu'il voit les choses, il les reçoit, mais il n'arrive pas à dépasser. À s'ouvrir, c'est très très difficile, pour
c'est
lui.
C'est tout un travail sur la filiation et en même temps sur la judéité, quoi. C'est comment transmettre une mémoire qui est pleine de souffrance,
qui est aussi chargée.
Je crois que le fils ne supporte pas du tout les non-dits du père. C'est ça qui crée ça. Vraiment un grand. Enfin, cette situation un peu, enfin, très comment dire, très exaspérante. Voilà, je cherche le mot entre le père et le fils, quoi.
Bah, il y a ces non-dits. En même temps, c'est ce qu'on se disait un peu hors antenne. Il y a tous ces non-dits. Il y a le fait donc qu'ils sont juifs tous les deux et que donc c'est quelque chose de très important pour le père qu'il a transmis à son fils, mais sans lui expliquer grand-chose.
On a l'impression que vous êtes un peu un juif olé-olé, quoi, quand même. Enfin,
en rébellion, oui, en rébellion un peu par rapport à tout un tas de choses, parce que comme ce père ne s'est pas exprimé, qu'il n'a rien dit de son passé, du coup, le fils, nie un peu tout ça et a envie de vivre sans trop regarder derrière, mais plus vers l'avenir. Et ouais. c'est ce qu'il dit à un moment à son père, d'ailleurs.
Et il a d'ailleurs l'intention de s'investir par rapport à l'éducation de ses enfants, même s'ils ne sont plus avec lui, qu'ils vivent avec sa mère. Ça, vous le dites à un moment donné.
Ah,
bien
oui,
sûr
oui,
que
oui,
je
oui.
m'occuperai de mes enfants. Bon.
Mais là, je vais me faire un petit peu l'avocat du père. Parce que tout se passe comme si ce père avait avait beaucoup de difficultés à exprimer cette mémoire, qui est verrouillée au fond de lui-même, et cette souffrance qui l'empêche de dire. Mais en même temps, il veut protéger son fils. Et or, son fils, en gros, il lui dit « Attends, moi, je suis grand, je suis responsable, donc tu peux me dire ce que tu veux, au contraire, ça m'aidera. »
Robin. Mais finalement, ce qu'on voit aussi, c'est que la culture primaire, qui est dans le cadre de la famille, elle a ainsi laissé place à la culture secondaire, celle de l'école. C'est ce qu'il lui dit à un moment, il lui dit « Mais si tu veux aller voir ce qui s'est passé, va voir dans les manuels d'histoire. » Et on voit que cette transmission de l'héritage, elle se fait beaucoup moins finalement par les parents que par l'école, qui se décharge aussi beaucoup de ça, de cette histoire finalement vis-à-vis de...
Oui, c'est-à-dire que le père se défausse. Il dit « Moi, j'ai pas envie de raconter. Va voir dans les manuels. » Et le fils lui répond « Mais les manuels, c'est bien beau, mais ça ne me raconte pas ton histoire. Or, moi, j'ai envie de connaître ton histoire, l'histoire de la famille, ne serait-ce que pour la transmettre à mes enfants. »
Puis finalement, il y a une genre d'hypocrisie un peu conventionnelle, de gêne qui se met entre les deux personnages et qui n'est pas seulement lié à l'histoire juive des deux personnages, mais qu'on peut retrouver, je pense, qui est assez universel.
Dans n'importe quel rapport père-fils, je crois. Ouais. Moi, je sais que quand Marc Chawat, donc le directeur du théâtre Pierre Tabar, m'a fait lire la pièce, ma compagne venait juste venait d'accoucher et le petit avait 2 mois et je suis parti avec le petit dans le porte-bébé. Je me suis installé à une terrasse de café, il s'est endormi sur moi et j'ai découvert la pièce avec ce petit être vivant en train de dormir sur moi. Et il y a eu une résonance extraordinaire de cette pièce en tant que père, mais du coup aussi en tant que fils fils de mon père, où j'ai retrouvé justement cette complexité des rapports où il y a énormément d'amour, mais où les choses sont extrêmement difficiles à dire et à s'avouer entre père et fils.
Oui.
Oui, je voulais dire que de mon côté, j'ai une expérience un petit peu plus âgée, si tu veux. Et lorsque j'ai découvert cette
beaucoup
pièce que j'ai
âgée.
Adorée, j'ai adoré le texte, je l'ai fait lire immédiatement à mon fils, qui se trouve avoir le même âge que mon partenaire. Et mon fils l'a lu et à la fin, il m'a dit « Ça te parle, ça, papa ?»
Moi, je suis l'habituel des petits souvenirs dans l'émission, parce qu'on me dit toujours le jeu en radio, c'est absolument abominable. Non, mais il y a deux choses qui me rappellent ça. Ça me rappelle parce que j'ai vécu dans un pays qui a connu la guerre coloniale et la France a connu la guerre d'Algérie. D'abord, les gens qui ont fait la guerre, des guerres comme ça, des guerres injustes, des guerres sur lesquelles ils culpabilisent. Et il en parle peu ou presque jamais. Mmh. J'ai un oncle toujours vivant qui dit « Je peux en parler parce que j'ai tué personne. » et donc, il parle volontiers parce qu'il a l'impression de parler pour les autres. Parce qu'il a vu les autres tuer, il a vu d'autres choses. Mmh. Et une autre chose aussi, parce qu'on parlait de ça en antenne, ça m'a rappelé. Une fois, je pensais, parce que j'ai vécu sous le fascisme, je sais que c'est pas du tout la même situation parce que mon père n'est pas parti au camp, des choses comme ça, c'est pas la question. Mais j'ai eu un flash un jour parce que je parlais de mon enfance, je sais plus à quel propos, et je me suis aperçu, et on m'a dit « mais tu as eu une enfance heureuse ». Et je me suis rendu compte que oui, dans un pays très très malheureux, dans un pays où tout le monde était malheureux, mes parents étaient malheureux, tout le monde était malheureux, mais moi j'étais très heureux. Et je me suis posé la question si le père dans la pièce, des fois, il ne pourrait pas parler non plus du fait que quand on est enfant, on est heureux. Et que, après tout, il ne savait pas que son père était parti au camp, des choses comme ça. Mmh. Est-ce qu'il n'y a pas aussi, dans l'irracontable, le fait que la plupart du temps, il a été heureux, comme tous les enfants, ils sont heureux. Quoi.
Et d'où une culpabilité qui
exact,
est de,
double.
De ça. Quoi. Mmh. Ouais.
Mmh. C'est la protection dont parlait tout à l'heure
Bernard.
Voilà.
Moi, je voulais revenir sur l'auteur que je ne connaissais pas, Serge Kribus. Je ne connais pas du tout cet auteur. Est-ce qu'il a écrit d'autres choses ?
Eh bien, écoutez, c'était la question à ne pas poser.
C'est un Belge, non ?
Je n'en sais
pas. Il est
pas,
Belge, je crois.
Pas
ouais.
Plus. Vraiment pas plus.
Parce qu'il y a une belle qualité d'écriture. Il y a une belle qualité d'écriture. Et ouais. Moi, je me disais, tiens, je ne connais pas du tout. Je n'ai jamais entendu parler. Tu me dis qu'il est Belge.
Il est Belge. Il a eu des prix aussi. Ouais, oui. Ouais, ouais, ouais.
Moi, ça ne m'étonne pas qu'il soit Belge. Je défends les Belges.
Tito et les Belges.
Ça va faire 3 émissions.
J'adore les Belges.
Une émission de Tito et les Belges.
Mais la littérature belge, en plus, c'est une grande injustice. Moi qui suis étranger, comme Gratier, on le sait bien. À l'étranger, personne ne sait qu'ils sont Belges, en plus. comme les Suisses, d'ailleurs. Personne ne sait qu'ils sont Suisses. Godard, tout le monde croit qu'il est français. Simenon, tout le monde croit qu'il est français. Hein, c'est comme ça.
Sandrard, tout le monde croit qu'il
est
français.
Exact. Et moi, j'adore l'esprit belge. Et là, ça ne m'étonne pas parce qu'il y a des pointes d'ironie.
Ah oui.
Et ça, un truc belge où il n'y a pas quelque part ça, une échappatoire vers le rire, c'est difficile à trouver. Hein. Ouais, en général, il y a toujours cette dimension-là.
D'ailleurs, on est assez...
Pardon. C'est une très, très belle écriture, très contemporaine, très simple. Une écriture, un dialogue de tous les jours, absolument ni pédant, ni gâché. C'est vraiment un très beau texte.
Et oui, j'en viens. Et il y a beaucoup, énormément d'humour. Il y a énormément d'humour dans cette pièce. Et on a été très surpris tous les deux à la première. Parce que juste là, on répétait en vase clos avec le metteur en scène. Et donc, on s'attachait plutôt aux choses un peu lourdes et un peu dures de la pièce et de ce rapport entre le père et le fils. Et on avait complètement oublié l'humour qu'il y avait dans la pièce. Et on a été très surpris des réactions, des rires par moment. Alors il y a aussi d'autres moments où il y a des rires un peu plus de gêne, mais il y a vraiment des moments drôles dans cette pièce, dans la situation, plus dans la situation de ce que dans ce qui se dit d'ailleurs. Et ça, c'est vrai qu'on l'avait un peu oublié à force de répéter.
Radia, toi, tu étais la première.
Oui. Ah, moi, j'ai beaucoup ri. Hein. mais c'est vrai que l'humour, c'est aussi ce que j'appellerais une vertu juive. Hein, parce qu'il faut vraiment être grand d'esprit pour pouvoir avoir un humour tel que celui des juifs, qui est connu, après avoir vécu...
Elsa Poppin, c'est un film mythique pour moi. C'est le film le plus drôle de l'histoire. Et c'est l'humour juif poussé jusqu'au bout, jusqu'à la corde. Et c'est un des... Il faut absolument, ceux qui ne connaissent pas, voir Elsa Poppin, qui est un truc absolument génial.
Robin, tu voulais rajouter quelque chose?
Oui, moi ce que je trouvais très intéressant aussi dans la pièce, c'est le statut du père en fait, vu qu'il est comédien et que les deux personnages ont chacun des masques en fait, un par pudeur un peu de son intimité et l'autre par le rapport père-fils qui n'est pas facile, ça met en exergue de suite le rapport conflictuel et gênant que son père vis-à-vis du fils. Et alors du coup, je cherchais dans la pièce à quel moment le père pouvait être vrai et à quel moment le père jouait un rôle, parce que on voit que le père répète sur scène, il fait une tirade magnifique du roi à lire, mais à la fois quand il parle, et même quand il parle tout seul, il parle souvent en regardant le public, ce que ne font pas vraiment souvent les deux comédiens dans la pièce. Et ça, c'est aussi un rapport intéressant, parce que d'habitude au théâtre on parle toujours en regardant le public, et là il y a souvent que le père qui le fait.
C'est ça, il se montre,
Et du
il
coup,
spectacle.
Et on a l'impression que du coup le rapport il va prendre conscience de ça au moment où je sais plus à quel moment du spectacle il va dire, mais en fait le théâtre, ce que je me suis rendu compte, c'est que moi au théâtre je fais semblant, mais le théâtre il faut pas faire semblant. C'est au théâtre, on joue vraiment ce qu'on ressent. Et du coup il se cachait aussi beaucoup derrière son statut. Mais alors du coup, moi ce que j'aimerais vous demander, c'est comment vous l'avez ressenti, vous, à quel moment le père va vraiment se confier? Est-ce que c'est à la fin ou est-ce qu'il joue un rôle jusqu'au bout?
Non, il va cesser de jouer son rôle à partir de la scène du restaurant. Alors c'est quelque chose qu'il ne faut surtout pas dire à l'antenne, ça fait que l'alcool est dans. Petit à petit, le père va déverrouiller son armure et il va commencer à se confier. Et ensuite, dans la scène, lorsqu'ils sont sortis du restaurant, il va commencer par faire un grand show, spectacle de personnes un petit peu ivres, pas beaucoup, mais un petit peu ivres quand même, jusqu'à ce qu'il craque et qu'il s'effondre, non, c'est un grand mot, qu'il se jette dans les bras de son fils et se livre complètement. D'accord. Là, vraiment, il se dépouille et il lui avoue que non, il n'a jamais été un bon comédien, qu'il a toujours eu peur, qu'il savait pourtant qu'il ne fallait pas jouer, puisque en tant que comédien, on ne joue pas, on est, pas. Ou alors sinon, on est très mauvais. Et donc, il dit, ça, je le savais, mais je ne l'ai pas pratiqué, voilà. Et il l'avoue les yeux dans les yeux à son fils.
Mais ce qu'il avoue aussi, et c'est une forme de confidence, et il commence à ce moment-là un peu aussi à se livrer sur ce qu'il a vécu, c'est-à-dire qu'il avoue qu'il s'est toujours caché parce que donc, ses parents ont été emportés, il avait 6 ans, et je ne sais plus si c'est dit dans la pièce ou pas, parce qu'il y a eu quelques coupes dans cette pièce, sinon qui ferait 2h30. Et à un moment, donc, il raconte que au moment, ses parents l'ont caché dans un placard, et ensuite au bout de 2 ou 3 jours il est ressorti de ce placard et il n'y avait plus personne, et cet instinct de se cacher, il a ça toujours en lui, et ça l'a suivi toute sa vie, et c'est quelque chose qu'il ne maîtrise pas, dont il n'a pas conscience. Il se cache sans le savoir, et c'est son fils qui va mettre le doigt là où ça fait mal pour lui dire maintenant il faut que tu sortes de ta coquille. Il lui dit à un moment tu t'enfermes, et c'est vrai que le père s'enferme et a vécu enfermé avec sa souffrance toute sa vie, et il enlève un peu l'armure. Mais c'est pour la remettre aussitôt.
À chaque fois, c'est vrai que dans les scènes, on voit cette alternance un peu cyclique de moments où on a l'impression qu'il va parler et finalement il se renferme. Et à chaque acte, en fait, c'est un peu une répétition du même cycle jusqu'au bout, au dernier moment où il va quand même se lâcher.
C'est ça. À plusieurs reprises dans la pièce, au cours de la pièce, il va dire « Moi, j'ai eu peur. » Et ça explique pourquoi mon fils a peur. Et donc ça, il le dit à la fois au public, hein, « J'ai eu peur », et ensuite à son fils. Et là, c'est l'aveu.
Je vais vous demander un exercice difficile. Est-ce que ça serait possible d'avoir un petit extrait de la pièce en direct ?
Oui, c'est difficile.
Oui, pourquoi pas, oui, c'est bien.
Oui.
Alors, je situe peut-être le voilà, passage. Oui. Donc, après plusieurs scènes de confrontation ou de rapprochement, d'éloignement, etc., ils se retrouvent au restaurant. Voilà, et là, ils discutent. Tu me donneras son adresse.
À qui ?
À Charlotte.
Si tu veux.
Je voudrais lui envoyer une invitation pour la première. Et au fond, tu sais quoi ? Peut-être que Max pourrait venir assister à quelques répétitions.
Il a ses devoirs. Il a ses copains, le football, et de toute façon, Max est trop petit.
Oh, mais de temps en temps, pas tous les jours. Je suis sûr que ça lui ferait plaisir. Et il n'y a rien de tel que de découvrir Shakespeare quand on est jeune.
Papa, à 6 ans, on ne comprend pas Shakespeare.
C'est là que tu te trompes. Les enfants aujourd'hui, ils comprennent tout. Et Max est très intelligent.
C'est un petit sauvage, ça ne lui parlera pas.
Ça lui parlera, parce que Shakespeare, c'est universel.
Papa, c'est Super Mario qui est universel aujourd'hui, pas Shakespeare.
Ah, je connais pas. Qu'est-ce qu'il a écrit ?
Rien. C'est des jeux vidéo.
Voilà, faut pas qu'il joue à ça. Faut qu'il vienne au théâtre.
On verra.
Merci. Et le rire que vous entendez, c'était celui de Grazia. Ouais.
Je peux poser une dernière question. On pourrait dire peut-être 2 mots sur cette compagnie, la compagnie de la traversée ?
Oui, bien sûr. Oui. Alors, c'est la compagnie donc, qui est résidente au théâtre Pierre Tabar, qui a été créée par Marc Chawat. Et donc, qui fait tout... Qui a eu 3 ou 4 créations cette année, et notamment un très beau spectacle qui va se redonner pour une représentation exceptionnelle la semaine prochaine. C'est Dreyfus, Amour et Résistance, qui était un très beau, très très beau spectacle avec un comédien assez exceptionnel.
Et la mise en scène du Grand Retour de Boris S, c'est une mise en scène de Damien Goudet, qu'on avait reçu ici pour La Mort de Don Juan.
Exactement, oui. Et donc qui travaille en étroite collaboration au théâtre, et qui, pour la saison prochaine, sera la directrice artistique du lieu.
Voilà. Et on la recevra donc de nombreuses fois sur Vendredi Théâtre.
Et j'imagine, j'espère. <Voilà.
rire> Merci beaucoup de nous avoir accompagnés pour ce dernier plateau de Vendredi Théâtre. Donc la pièce s'appelle Le Grand Retour de Boris S. C'est au théâtre Pierre Tabar, c'est jusqu'au 5 mai. C'est tous les soirs donc à 21h, sauf le dimanche à 17h.
C'est
ça. Je ne me suis pas trompé.
Toutes les semaines, Vendredi Théâtre, c'est de 12h30 à 14h, l'émission qui assiste au spectacle et prend le temps d'en parler.